Alors, chers amis, on va reprendre. Donc, on recommute la matrice sur le diaporama. Tu veux arrêter la diffusion d'abord ou on le laisse tourner? C'est pas important. On peut laisser tourner, tout à fait. Alors, nous disions c'est 1 et 1. Ok. On a le bon. Oui, c'est bon.
Okay, très bien.
Jean-Michel Angastard, à toi.
Très bien. Donc, on va aborder une des parties qui fait de mystère, enfin, qui montre un peu la convivialité que peut avoir Miss TV lorsqu'il est utilisé donc comme un boîtier. Comme un boîtier grand public en enregistreur numérique dans le salon, donc qui est la mise en veille et le réveil automatique. Je vais même dire l'extinction et le réveil automatique, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. On va pour détailler un peu, donc parce qu'on parle d'extinction, parce que donc les appareils informatiques ont la possibilité de se mettre en veille, il y a différents niveaux de veille et puis il y a l'extinction de la machine avec réveil par le BIOS. Nous, on va plutôt utiliser l'extinction avec réveil par le BIOS pour diverses raisons. C'est aussi une des solutions qui est la mieux maîtrisée. C'est le BIOS de la machine qui va gérer le réveil. Donc voilà, on s'affranchit de tout un tas de soucis qui peuvent arriver avec les mises en veille. Le tuneur qui ne se réveille pas ou ce genre de choses. Donc on va mettre en place des fonctions qui vont complètement arrêter la machine et complètement la relancer à chaque fois. Et donc s'assurer qu'on repart dans un état stable en permanence. Alors l'extinction réveil, donc c'est un autre des points de configuration qui pose souvent beaucoup de soucis. Alors, tout comme pour la télécommande, c'est très simple. Le concept est très simple, mais pas forcément évident à exécuter. Qui fait intervenir plusieurs éléments du système. Donc, quasiment tous sont maîtrisés. Le seul qui n'est pas vraiment maîtrisé, et donc qui est un peu aléatoire, c'est le BIOS de la machine. Donc, les différents éléments auxquels on va toucher, donc c'est MIF TV. En lui-même, donc tous les composants de base de MIF TV, plus précisément le back-end, c'est lui et celui qui gère les enregistrements, la configuration, la base de données, etc. MIF Welcome, qui lui est un assistant dédié à cette fonction d'extinction réveil, donc au fonctionnement comme un magnétoscope en fait. Donc un frontal graphique dédié à cette fonction, le système d'exploitation, parce que c'est lui qui va faire l'interface avec le BIOS et lui indiquer ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il doit se réveiller. Ce que j'ai nommé l'interface graphique, qui est en fait le gestionnaire de connexion et le gestionnaire de session, en gros, dont on va avoir besoin également, donc ça fait déjà pas mal de composants. Et enfin le BIOS, qui normalement ne nécessite pas vraiment de configuration, mais en général qui est la cause des soucis. Alors configuration, donc on voulait en parler parce que c'est vrai que souvent elle pose des soucis, mais que lorsqu'on arrive à l'implémenter, ça change quand même complètement la vision qu'on peut avoir de l'outil MIF TV. Alors donc on va commencer donc par la configuration de MIF TV, donc qui est quasiment le plus simple. Donc on parlait tout à l'heure du programme MIF TV Setup, donc qui permet de configurer, d'installer la configuration de base pour MIF TV. Et donc on avait un onglet général. Qu'on n'avait pas abordé, mais dans cet onglet général, donc on trouve à la cinquième page, en tout cas dans la version actuelle, une page dédiée, enfin deux pages dédiées à l'extinction et réveil automatique de MIF TV. Donc par défaut, elle n'est pas du tout configurée pour éteindre automatiquement la machine et la réveiller, tout simplement parce qu'à cause de tous les autres composants à mettre en œuvre. Donc il y a quand même une démarche à effectuer que MIF TV seul ne peut pas faire. Donc sur cette page, donc là je vais montrer un exemple de configuration que moi j'utilise. Alors donc plusieurs ont leur importance, enfin elles ont toutes leur importance en fait. Parce que ce qu'on va faire en fait c'est configurer MIF TV de façon à ce qu'il puisse communiquer avec tous les autres composants du système qu'on a indiqué tout à l'heure. Donc une première configuration, c'est le blocage de l'extinction avant qu'un client se soit connecté. Ça, ça va être utile pour l'assistant MIF Welcome, qu'on va voir tout à l'heure. À quoi ça sert, cette option ? En fait, c'est tout simple. On va le voir avec les options suivantes. On va dire à MIF TV que s'il n'a rien à faire, la configuration de base est simple, c'est s'il n'a rien à faire, il s'éteint. il s'éteint. Et donc là, ce qu'on va lui dire, c'est que il ne s'éteigne pas avant que le moindre client ne se soit connecté. Donc c'est-à-dire que quand on va allumer notre machine, qu'il ne s'éteigne pas au bout du temps configuré juste en dessous, qui est le délai d'inactivité pour l'extinction en secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 60 secondes, par défaut, si on allume MIF TV et qu'il n'a pas d'enregistrement à faire, il s'éteint. Donc là, on va le bloquer. On va bloquer cette extinction le temps qu'un client se connecte. Donc un client, c'est quoi ? C'est soit le frontal MIF Frontin, ce dont quoi, devant quoi on se trouve en général lorsqu'on lance pour la première fois MIF TV. Soit MIF Welcome, qui est l'assistant pour l'extinction, qui est lui un autre client intermédiaire qui va venir se greffer avant le frontal, soit un client web, soit un autre client complètement externe à MIF TV. Mais en gros, voilà, le back-end va se lancer. Lorsqu'on va le lancer, il va attendre qu'un client se connecte, et c'est seulement lorsque ce client aura indiqué qu'il en a fini, qu'il va lancer son délai d'extinction et éteindre la machine. Alors, on a plusieurs garde-fous dans cette configuration. On a une attente max avant un enregistrement. C'est un délai pendant lequel... c'est un délai entre le moment présent et le prochain enregistrement. Si le prochain enregistrement commence, donc là, c'est configuré à 15 minutes. Si on a un enregistrement prévu dans moins de 15 minutes, le back-end ne s'éteindra pas. Il va attendre ces 15 minutes, démarrer son enregistrement et s'éteindre éventuellement après. Donc ça, c'est un premier garde-fou. Et on a une deuxième configuration qui est le délai de démarrage avant enregistrement qui va permettre donc à MIF TV de dire il faut que je me réveille au moins ce temps-là avant un enregistrement de façon à laisser ce délai c'est en gros le temps de démarrage de la machine. Alors là il est mis à 2 minutes, 120 secondes. C'est pas forcément nécessaire, mais ça en fait ça permet typiquement les machines typiquement celle-là s'allume en comme je disais en moins de 20 secondes, mais ça permet dans le cas où le système a besoin de par exemple de vérifier des disques. Il faut savoir que sur les installations MIF TV, souvent on a beaucoup énormément de données, donc ça peut être plusieurs téras. Voire plusieurs centaines de gigas en tout cas pour autre chose que les enregistrements, et que donc si on les met pas sur des systèmes de fichiers plus adaptés à ce genre d'utilisation, il peut y avoir un temps de vérification du système assez long. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai placé à 2 minutes. Alors on a un format de l'heure de réveil qui est en fait qui est utilisé dans la configuration juste en dessous et qui indique juste le format dans lequel le back-end va indiquer à la commande, donc juste en dessous, l'heure à laquelle la machine doit se réveiller. Et donc la commande juste en dessous, on commence à voir apparaître les éléments de l'assistant MIF Welcome, donc qui comporte plusieurs outils, donc une interface graphique MIF Welcome, et des outils pour gérer l'extinction, donc là typiquement Myth Shutdown, qui va utiliser donc là c'est une ligne de commande, sont des lignes de commande qui vont lui indiquer que Myth, le backend va lancer pour indiquer à Myth Welcome à quelle heure il doit réveiller la machine. Donc on va lui passer le format d'heure de réveil déclaré plus haut. Donc ça c'est standard, hein, c'est décrit dans la commande. Donc cette configuration en fait est quasiment toujours la même.
Donc là c'est une configuration assez simple où on n'est pas encore en train de dire la machine va se réveiller parce qu'il y a quelque chose à enregistrer, mais simplement tous les jours, bon parce que c'est bien pratique de l'avoir sous la main allumé, je veux que ça s'active à telle heure.
Voilà. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que en fait le backend, enfin Myth TV, systématiquement lorsqu'on va lui demander de s'éteindre, lui il va aller mettre à jour l'heure de réveil. Donc s'il possède une commande pour le faire, s'il n'en possède pas, il ne fera rien. Mais là, typiquement, si cette commande est renseignée, il va systématiquement, avant de s'arrêter, fournir cette heure de réveil. Et de la même façon, lorsqu'on va lui demander de s'arrêter, il a la possibilité également de lancer une commande. Donc là, typiquement, la commande en dessus, suivante, qui est la commande d'arrêt du back-end, c'est une commande qui va lancer lorsque le Myth TV va s'arrêter. Il va lancer cette commande, donc ça peut être n'importe quoi, mais typiquement on va mettre là une commande qui va arrêter, éteindre la machine. Alors je dis typiquement, ça c'est pour une machine qui est dédiée à l'utilisation de Myth TV, donc qui est dédiée à cette utilisation comme un magnétoscope. Donc là on parle vraiment de boîtier dédié. Après on peut mettre d'autres commandes si on fait tourner Myth TV sur son desktop, enfin sur sa machine de bureau. Bon, évidemment on va pas mettre une commande d'extinction. Mais donc là, c'est vraiment une configuration pour un boîtier dédié Myth TV. Donc, le dialogue donc, va se faire entre le backend et Myth Welcome via la commande Myth Shutdown. Dessous, donc, on a la commande d'arrêt du backend. Alors évidemment, c'est pas que pour une question de purisme, mais la configuration est un peu sécurisée, on va dire. C'est-à-dire que Myth TV ne tourne pas en route dans ce genre de configuration, en tout cas, elle tourne sous un utilisateur bien particulier, donc ce qui peut éviter beaucoup de problèmes. Et donc, typiquement, pour arrêter la machine, ben, il faut des droits un peu plus élevés qu'un simple utilisateur. Et donc, on va utiliser sudo. Donc ça, c'est la partie conciliation avec le système d'exploitation. On va utiliser sudo pour lancer cette commande, afin qu'il ait le droit d'éteindre la machine, puisque c'est pas quelque chose que tous les utilisateurs peuvent faire de manière standard. Et enfin, une commande de vérification avant extinction qui sert simplement au back-end, de savoir s'il peut vraiment s'éteindre. Donc ça a plusieurs avantages. Ça permet de lancer des fonctions annexes, par exemple de la sauvegarde, ou alors de gérer des modules externes à Myth TV, enfin ou externes ou internes, comme le transcodage, si des transcodages sont en cours, si des gravures de DVD ou autres sont en cours, ça permet d'éviter d'arrêter la machine, parce que Myth TV, lui, n'a pas forcément conscience de ses autres fonctions en cours. Et donc, on met une commande qui va tester. Qui va indiquer à Myth TV qu'il a le droit de s'éteindre. Donc le fonctionnement c'est tout simple, c'est que dans un délai réglable, le Myth TV va questionner cette commande qui va lui envoyer un code retour lui indiquant si oui ou non elle peut s'éteindre. Enfin il peut s'éteindre. Donc ça c'est l'essentiel de la configuration de la partie Myth TV. Alors, le deuxième écran, non, il n'y a pas de deuxième écran. C'était l'essence, c'était la totalité de la configuration pour Mif TV en lui-même. L'écran suivant, en fait, c'est la configuration de l'assistant Mif Welcome, qu'on peut accéder directement avec en ligne de commande, vous voyez, via Mif Welcome moins setup. On peut y accéder également via des touches spécifiques de la télécommande. Bon, mais ça, c'est aussi simple. Enfin, moi, en l'occurrence, là, dans l'étape de configuration, je lance cet écran via Mif Welcome moins setup, qui nous affiche donc cet écran qui va permettre de configurer l'assistant Mif Welcome et son interaction avec le système. Puisque c'est Mif Welcome. Donc on a vu tout à l'heure que le Mif TV allait discuter avec Mif Welcome, et Mif Welcome, lui, va discuter avec le système d'exploitation. Et c'est lui, en fait, qui va demander au système d'inscrire l'heure dans le BIOS, et qui va arrêter la machine, typiquement. Donc la configuration est très simple. On a une commande qui permet d'inscrire l'heure de réveil dans le comment dire en tout cas d'indiquer au système d'inscrire l'heure de réveil dans le BIOS avec un format de temps donc là qui est spécifique hein, donc là c'est timet, bon, c'est un format spécifique, je vais pas m'appesantir dessus, les commandes d'extinction et d'autres commandes annexes. Et surtout, très important, la commande à lancer... Ah, tiens, je me rends compte que tout est en anglais, mais bon, c'est... L'équipe de traduction, de toute façon, est dessus, donc ce sera en français prochainement. La commande à lancer pour lancer le frontal. Donc, comme je disais, Mif Welcome vient se greffer avant le frontal Mif TV, et donc c'est lui qui va s'occuper de lancer. On pourra le voir avec la machine là. C'est lui qui va s'occuper de lancer le frontal. Donc ça c'est très important pour l'utilisation comme magnétoscope, puisque ce qui va se passer, en fait, ça règle le problème du lancement d'un enregistrement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enregistrement doit démarrer? Donc l'heure de réveil a été inscrite dans le BIOS, le BIOS va réveiller la machine va se lancer. Elle va arriver, donc on va le voir tout à l'heure via différents composants, elle va arriver sur Mif Welcome. Et Mif Welcome, lui, va aller se connecter au back-end de Mif TV. Donc c'est le fameux client qui va se connecter à Mif TV. Et là, va le faire attendre pour pas qu'il s'éteigne. Mais étant donné qu'on lance un enregistrement, ça signifie probablement qu'il n'y a personne, il n'y a personne derrière pour gérer manuellement, en tout cas le frontal. Donc, et le problème qui peut se poser, c'est que si on lance le frontal, après, il faut une intervention manuelle pour pouvoir en sortir. C'est-à-dire quelqu'un qui appuie, par exemple, sur la touche de la télécommande exit pour sortir du frontal. Donc, dans le cas où le frontal serait lancé directement, on se retrouverait bloqué avec une machine qui resterait allumée jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire de s'éteindre. Donc là, Mif Welcome, lui, ne va pas lancer le frontal lorsqu'il détecte qu'il s'est lancé parce qu'un enregistrement doit démarrer. Il va attendre sur son écran, sur son interface graphique à lui, et il va surtout pas lancer le frontal. Et donc, le front-end va pouvoir démarrer son enregistrement. Et lorsque cet enregistrement sera terminé, si personne entre-temps n'est arrivé pour lancer le frontal et regarder, faire ses opérations, le Mif Welcome va pouvoir dire au back-end, eh ben, j'ai terminé. Donc maintenant tu peux te débrouiller il va pouvoir libérer le back-end qui lui va pouvoir s'éteindre dans son temps configuré, donc là de 60 secondes. Et donc c'est ce qui permet en gros cette utilisation en, comme, comme un magnétoscope. Donc c'est cet assistant. Donc on voit que il y a des sudous à différents endroits. Je donne les droits d'administration à différents endroits. Donc ça c'est, bon, c'est des détails de configuration. On aurait pu mettre le sudou ailleurs. Enfin bon bref. Il faut savoir que pour mettre l'heure de réveil dans le BIOS, évidemment, tous les utilisateurs n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est pareil, on donne les droits d'administration pour faire ça.
Je donne à l'écran l'exemple de ce que c'est l'écran Miss
oui,
Welcome.
Tout à fait, oui.
Comme ça, on va
tu,
voir.
Tu n'oublieras pas de
revenir.
Le remettre parce qu'il reste 40 secondes.
Oui, absolument.
30. Je pense que tu vas devoir appuyer tout de suite. Et puis,
ah, ok.
Non, mais tu peux basculer dessus.
Ok, que chacun puisse regarder. C'est 1-4.
Donc voilà, donc ça c'est le frontal. Donc c'est ce sur quoi on arrive avec Miss TV lorsqu'on veut l'utiliser. Donc une fois qu'on est là-dedans, on ne peut pas en sortir sans intervention manuelle.
Et ça c'est l'écran de veille de Miss Welcome.
Ça c'est Miss Welcome, voilà. Qui donc fait l'interface avec le frontal. Et donc on a cette option lorsque voilà, Miss TV est inactif. Évidemment, lorsqu'il y a un enregistrement, on a le détail des enregistrements en cours et donc il ne s'arrête pas. Mais donc là, effectivement, il détecte qu'il n'a rien à faire. Et donc Miss Backend, lui a prévu de s'arrêter en tout cas. Donc on va le. Je vais le remettre, je ne vais pas éteindre tout de suite. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la configuration de Miss Welcome, donc c'est assez simple. Hein.
Donc on a des grosso modo, ce que tu es en train de décrire, c'est quand même qu'on est arrivé à un point suffisamment de polissage de cette application pour que toutes les difficultés dont on a entendu parler les années précédentes, avec la nécessité de recompiler, d'installer NVRAM Wakeup, etc., etc.,
voilà.
Toutes ces difficultés ont disparu. Et tout peut se faire à travers l'interface graphique de Miss TV.
Alors, je vais juste parler de NVRAM Wakeup sur le slide suivant. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au départ, donc moi, enfin, en tout cas, auparavant, lorsque j'ai commencé à utiliser Miss TV, se posait un souci pour inscrire l'heure de réveil dans le BIOS. C'est une fonction qui n'était pas forcément supportée, en tout cas par le noyau Linux, sur tous les matériels, ou qui présentait un bug. Donc, dont moi j'ai été victime en tout cas, qui empêchait, avec certaines configurations du noyau, qui empêchait d'inscrire l'heure dans le BIOS. Donc,
c'est... Peut-être ce qui est important d'expliquer, parce qu'on se dit, mais inscrire l'heure dans le BIOS, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut comprendre qu'à partir du moment où le but de la manœuvre, comme pour un vrai magnétoscope, c'est de permettre d'éteindre la machine en veille, il n'y a vraiment plus grand-chose qui tourne. Les logiciels sont éteints. L'état de la RAM est stable. Le processeur n'exécute rien. On maintient électriquement les données en l'état dans la RAM, et puis quand on va réveiller la machine, bah, il va falloir tout remettre en route, sans avoir besoin de redémarrer à partir du boot du disque dur. Mais néanmoins, il faut tout réactiver. Et par conséquent, qu'est-ce qui va réveiller la machine ? Ben, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que ce soit les couches les plus basses de l'ordinateur, c'est-à-dire le BIOS. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de parler à longueur de temps du BIOS. Pourquoi est-ce qu'il faut impliquer le BIOS dans cette affaire ? Parce que c'est entre guillemets lui le gardien qui va sonner le réveil. Et comment est-ce qu'il va sonner le réveil ? À quelle heure il va le sonner ? Ben à l'heure qu'on aura inscrite dans le BIOS. Voilà. Voilà l'origine de l'explication du pourquoi du comment du BIOS.
Voilà. Donc là, la configuration, bon, c'est pas forcément très lisible, mais donc j'ai repris mes configurations, donc qui sont un exemple. Donc on va définir les autorisations via la commande sudo. Donc on va autoriser certaines commandes à l'utilisateur Miff TV, qui là est utilisé pour le backend Miff TV, donc pour tout ce qui concerne Miff TV. Donc Dans mon exemple, en tout cas, c'est l'utilisateur MIFID qui est utilisé. Donc, on va l'autoriser à lancer la commande MIF Shutdown, donc qui est une des commandes de l'assistant MIF Welcome, et la commande de réveil, qui est un simple script shell, qui est redécrit ici, et donc qui est une façon, la façon standard, hein, enfin c'est toujours la même, d'inscrire l'heure dans le BIOS. Donc avec le bon format qui a été défini auparavant. Donc c'est deux simples lignes, deux lignes qui ont l'air toutes simples, mais voilà, qui ont leur importance.
Et dans la série des choses qui paraissent toutes simples et qui peuvent poser problème, là on a notre ami Thomas qui sur le chat fait remarquer qu'entre l'heure du BIOS qui est au temps universel et l'heure du système qui est en temps local ou peut-être l'inverse, je ne sais plus, ça peut être un casse-tête, nous dit-il.
Alors, c'est pour ça que effectivement la préconisation, en tout cas pour un boîtier dédié à MIFTV, mais c'est une préconisation pour quasiment toutes les machines, en fait, c'est d'avoir l'heure du BIOS en UTC, qui est le temps universel, voilà, qui est au même format pour tout le monde. Il y avait le problème auparavant de Windows qui, lui, stockait le temps local dans le BIOS.
Quand on était en multi-boot.
Oui, voilà.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilisait Windows, l'heure n'était plus la bonne dans le BIOS.
Donc c'était un problème, mais les dernières versions supportent l'inscription en UTC. Donc c'est une très bonne chose. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus de raison, à part pour se casser la tête, mais il n'y a plus de raison de mettre autre chose que l'heure UTC dans le BIOS. Et donc, effectivement, si on veut s'éviter pas mal de maux de tête, il est préconisé de mettre l'heure UTC dans le BIOS afin de s'affranchir de tous ces soucis. Alors, bon, l'opération est simple comme ça. Il peut y avoir quand même des soucis malgré l'exécution de ces commandes. Certains OS Linux, par exemple, peuvent modifier cette valeur, voire l'annuler lorsqu'elles vont inscrire l'heure actuelle, enfin, l'heure de la machine, l'heure actualisée avec les horloges atomiques lorsqu'elles veulent inscrire dans les registres particuliers de la machine. Donc ça peut arriver. Ce qui fait que donc c'est pourquoi il faut. Enfin, c'est quand même une fonctionnalité à tester. Et après, la résolution, ben, dépend vraiment des OS. Mais bon. Actuellement, c'est quasiment plus le cas pour aucune distribution. Il me semble que en effectuant uniquement cette étape, ça doit fonctionner dans la plupart des cas, mais il peut rester des cas problématiques. Donc ça, dans ce cas, je renvoie au site MIFTVFR où on pourrait avoir les renseignements adéquats.
Alors Jean-Michel, il nous reste une dizaine de minutes et je pense que nous brûlons tous d'envie de te voir manipuler un peu ta MISBOX et de nous parler des fonctionnalités avancées. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je pense que ce serait mieux si on peut le faire en live avec toi à la MISBOX. Je te repasse ta télécommande. Et il y a peut-être... Je bascule donc l'écran sur ta MISBOX. Et je te redonne d'ailleurs ton récepteur infrarouge dont on a suffisamment parlé tout à l'heure. Parce que ici, sur l'écran de contrôle, je vois que tu veux nous parler un petit peu de la visualisation en haute définition. Ce que manifestement, ta boîte est parfaitement capable de faire, on l'a vu à la pause, et justement, on va le regarder de nouveau. Tu veux nous parler des groupes de stockage, tu veux nous parler d'uniformisation de l'interface, chose qu'on évoquait à peine au tout début, et puis de nous dire un petit peu ce que la version 2.0.24 nous apporte, notamment le support des disques Blu-ray. Alors c'est un sujet passionnant, on se demande comment est-ce que dans un environnement aussi fermé avec des DRM à tous les étages, nos amis les Linuxiens de l'open source ont réussi à trouver des codecs pour ouvrir tout ça.
Alors je vais pas m'apesantir là-dessus, mais effectivement, juste indiquer qu'effectivement la prochaine version aura le support des formats audio HD. Donc ça, c'est une évolution qui était en cours même depuis avant cette version, mais qui n'est pas passée en stable jusqu'à présent. Pour quelle raison? Parce que ça demandait beaucoup de tests, ça demandait une refonte du système de gestion de l'audio, qui est déjà très amélioré au niveau de cette machine, enfin de cette version, puisqu'on peut voir dans la configuration. Alors je fais au clavier pour aller beaucoup plus vite, parce que ça marche aussi à la télécommande. Ça marche à la télécommande si je mets mon récepteur. Alors c'est une machine qui est pas, elle n'est pas vraiment terminée. Hein, j'ai fait rapidement pour la présentation. Enfin, elle est quasiment finalisée, mais donc tout n'est pas parfaitement installé encore. Mais on peut voir dans l'onglet général. Voilà. Par exemple, la gestion de l'audio est déjà bien améliorée dans cette version. Puisqu'auparavant, on devait. Il y avait pas mal de difficultés pour la gestion de l'audio. Il fallait définir, trouver soi-même les identifiants ALSA. donc c'était pas forcément évident. Alors que là, c'est beaucoup plus clair. Tout est détecté automatiquement. Donc on peut choisir. Voilà, je peux me plugger sur Pulse Audio, qui là n'est pas actif pour l'instant sur cette machine, mais choisir le HDMI très simplement. Enfin voilà, c'est beaucoup plus clair par rapport à voilà, sortie digitale, analogue, sur onde 5.1, SPDIF. Enfin voilà, tout est beaucoup plus clair maintenant.
Et ça, on est d'accord pour dire que c'est plutôt des améliorations de l'équipe qui s'occupe d'ALSA, davantage que des améliorations de Miss TV.
En fait, c'est aussi c'est aussi une grosse amélioration due aux équipes des développeurs de Miss TV. Et donc, sachant que là, c'est pas la version finale, c'est encore amélioré dans la version qui va suivre.
0.24.
Puisque là, il y a encore des petits problèmes d'affectation des canaux entre si on se trouve sur Pulse Audio ou autre. Enfin bon, mais c'est en bonne voie. Donc
tu veux dire que toutes ces briques existaient dans l'architecture ALSA et que l'interface graphique Miss TV ne savait pas les exploiter jusqu'à présent.
Voilà, alors elles existaient dans ALSA. Alors pas toujours au même niveau de stabilité, mais elles existaient. Bon, c'est vrai que certaines avaient des problèmes. Il faut bien dire quand même que effectivement ALSA s'améliore, continue à s'améliorer. Et commence à être très stable, hein, puisque les nouvelles versions deviennent moins nombreuses. Donc la gestion des flux audio HD s'améliore. Pourquoi avant c'était moins rapide? Tout simplement parce qu'on n'avait pas le matériel, la source pour les gérer, puisque l'essentiel des sources de ces matériels audio sont les Blu-ray. Et Biff TV en fait profite simplement des évolutions qui sont faites par d'autres groupes sur la gestion des la gestion des Blu-ray, le bypasser les DRM, etc. Et donc, étant donné qu'il y a eu de grosses évolutions récemment sur ce domaine, Miff TV, même si on peut parfois en douter, reste quand même à la page et adapte et donc a commencé, enfin même en train de finaliser l'adaptation des Blu-ray. Donc là, c'est vraiment un gros développement en cours qui sera peut-être pas entièrement prêt pour la 0.24, mais qui en tout cas fera une apparition. Et donc, avec la possibilité de récupérer les flux des Blu-ray, arrive la possibilité de pouvoir tester les flux audio HD.
Alors, quand tu dis bypasser les DRM, c'est vrai, mais c'est presque un gros mot. Oui. En fait, ce que tu veux dire, c'est offrir à Miss TV la possibilité d'interopérer voilà. Avec les Blu-ray, c'est-à-dire dans une optique légale, tout simplement de pouvoir lire un disque qu'on a acheté.
Exactement.
J'ai entendu parler de Jack, qui est un système de gestion du son sur Linux, et de ALSA, et je crois savoir qu'il n'y a pas nécessairement une compatibilité totale entre l'un et l'autre, et que Jack est le successeur de ALSA. Qu'en est-il vis-à-vis de Meet TV?
Alors, il y a des modules comment dire, de compatibilité ALSA-Jack. Mais a priori, Jack n'est pas prêt de remplacer ALSA. ALSA, c'est une couche vraiment au-dessus par rapport à ALSA. Enfin, il n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités. ALSA, c'est vraiment l'interface entre le bas niveau et le... Oui, Jack, en général, ça s'appuierait plutôt sur ALSA. Mais il existe des modules de compatibilité. Alors là, après, je n'ai pas les détails, parce que ce n'est pas une configuration que j'utilise.
Pour moi, Jack, ce n'est pas du tout la finalité d'ALSA. ALSA, c'est la finalité, c'est de permettre d'accéder au matériel et donc de faire sortir du son. Jack, c'est un système qui va permettre d'interconnecter tous les systèmes qui traitent du son, donc la carte son, la carte d'acquisition, de les interconnecter d'une façon temps réel, c'est-à-dire de les synchroniser entre elles. C'est très utile pour les studios d'enregistrement.
Tu veux dire renvoyer le son de l'une à l'autre ?
Par exemple, ou vers des modules d'effets ou des choses comme ça, mais de manière synchronisée et prévisible. C'est dans un studio d'enregistrement où on va avoir une carte son pour enregistrer le musicien, une carte son pour enregistrer le chanteur, etc. Il faut que toutes ces sources-là soient synchronisées. Et Jack, c'est son but, c'est son objectif.
Et je pense que la confusion vient aussi du fait qu'ALSA doit proposer des fonctionnalités temps réel aussi. Enfin, en tout cas, c'était un des objectifs à la base. Donc, je ne sais pas si ça a beaucoup avancé. Mais en tout cas, il devait permettre de faire ce genre de choses. Oh là, alors là, vous déplacez mes compétences.
Azio 2, c'est...
D'accord.
Oui, donc ça, c'est Jack, a priori, qui fait ça.
Mais en se pluguant, de toute façon, toujours sur ALSA. Et s'il devait y avoir pas un concurrent, mais quelque chose qui devrait se rapprocher de Jack, ce serait plutôt Pulse Audio plutôt que ALSA. Ouais. Alors, ouais, mais il y a peu de chance, connaissant le développeur de Pulse Audio, que Jack le remplace, mais bon. Les deux peuvent coexister, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Quelles sont les autres fonctions un petit peu avancées que tu veux nous montrer pour clore la conférence ?
Oui, d'accord. Donc il y avait les groupes de stockage, donc comme j'expliquais hors conférence, qui permettent, donc qui ne sont pas implémentés là, puisqu'il n'y a pas l'utilité, étant donné que nous n'avons pas plusieurs machines, mais les groupes de stockage donc, qui vont être. Uniformisé pour tous les modules de MIF TV qui permettent en gros de définir des emplacements pour les enregistrements, pour les vidéos, pour la musique qui vont pouvoir être diffusés via les connexions MIF TV vers d'autres clients MIF TV. C'est-à-dire qu'auparavant, sur un client distant, on avait la nécessité pour consulter ces données, de mettre en place des partages réseau, donc que ce soit NFS, CIFS ou autre. Et donc maintenant, ça n'est plus nécessaire, vu que les flux seront envoyés via la connexion MIF TV vers les clients. Et donc,
la connexion MIF TV, tu veux nous en dire un peu plus ? C'est quel protocole ?
C'est pas vraiment formalisé. Enfin, c'est le protocole MIF TV, on va appeler ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas plus de renseignements.
Grosso modo, un client dialogue avec un serveur.
Oui, tout à fait.
En termes de tous les jours, puisqu'on a la possibilité d'avoir un client, c'est-à-dire en fait un ordinateur branché à son téléviseur dans une pièce, et un serveur, c'est-à-dire en fait un ordinateur avec sa carte d'acquisition DVB installée dans une autre pièce, rien n'interdit d'avoir effectivement plusieurs clients, c'est-à-dire plusieurs pièces équipées d'ordinateurs et téléviseurs, et depuis n'importe où dans la maison, d'avoir son réseau de la maison, et donc de pouvoir regarder depuis n'importe quel ordinateur connecté à un téléviseur des flux qui auront été enregistrés ou même qui sont disponibles en temps réel sur l'ordinateur connecté à sa carte d'acquisition DVB. Et je pense que les fameux groupes envisagent jusque et y compris d'évoluer vers l'application dont tu nous parlais, c'est-à-dire de pouvoir partager sa vidéothèque avec d'autres clients situés à travers l'Internet et qui vont être capables de voir ces groupes comme étant autant de ressources avec du média disponible pour eux.
Voilà, donc on a cette possibilité en plus des fonctionnalités de MifWeb qui est un autre composant de MifTV qui permet de le configurer via une interface web ou de diffuser du flux, mais bon, du flux dégradé en streaming. Donc j'ai plus les protocoles en tête, mais bon, voilà. Donc de pouvoir accéder. Merci. Au revoir.
Est-ce que tu veux nous montrer pour clore en beauté quelques enregistrements que tu as fait, finalement l'ergonomie de ta boîte?
Voilà, donc juste un aparté pour les flux HD, puisque ça, c'est d'actualité maintenant avec les TNT. Juste pour indiquer, donc dans MifTV, donc depuis quelques versions, on a la possibilité de définir des profils de lecture qui vont permettre de définir la qualité de lecture des enregistrements. Donc avec les machines actuelles, pour les flux SD en dimension standard, il n'y a pas vraiment de. En définition standard, il n'y a pas vraiment de difficulté. La difficulté souvent se pose pour la HD. Donc on a plusieurs profils de lecture, normal, etc. Et on a accès à des bibliothèques qui vont utiliser les cartes, les spécificités de certaines cartes graphiques, les cartes Nvidia, les cartes. Ils vont arriver les cartes. Je m'y perds parce que ce n'est plus ATI, c'est AMD.
Voilà, l'accélération matérielle,
L'accélération matérielle.
Pour la haute définition.
Voilà, et juste pour dire que typiquement, moi sur les boîtiers, j'utilise le BET chipset Intel qui n'est pas très puissant, mais qui est suffisant pour afficher de la HD.
Oui, avec un très, très bon défilement.
Voilà, sans aucune saccade, avec. Et ceci même en 1080p avec une configuration qui peut paraître contre-productive parce que via le processeur. Donc là typiquement j'utilise deux processeurs pour montrer qu'avec les processeurs de maintenant qui sont quasiment tous double cœur, il n'y a pas de difficulté particulière
pour relire de la HD.
C'est juste que la configuration est contre-intuitive en général, puisque avec la configuration normale qui consomme moins de CPU, en fait on se retrouve avec un flux HD qui est saccadé. Or là, avec les désentrelaceurs, alors c'est ça qui est contre-intuitif, on va utiliser des désentrelaceurs qui vont gérer le mouvement, etc. Donc les désentrelaceurs les plus puissants disponibles sous MifTV, on obtient un décodage HD extrêmement fluide avec une carte sans aucune accélération matérielle.
Alors, quand même une question polémique, pourquoi désentrelacer une image qui est transmise en progressif?
C'est une bonne question en fait. Là, ce qu'on va gérer en fait, c'est uniquement l'encodage du mouvement. On ne va pas vraiment désentrelacer l'image. Mais c'est pour ça que c'est contre-intuitif, puisque d'utiliser un désentrelaceur pour améliorer la fluidité, puisqu'on se dit, si mon image n'est pas fluide avec un désentrelaceur peu puissant, avec un plus gourmand, ça marchera moins bien. Or là, ça fonctionne très bien, du coup. Donc là, on n'est pas en 1080p, mais on peut voir que ça fonctionne très bien. Alors j'ai fait quelques enregistrements, je pensais en avoir fait sur des chaînes avec des programmes. Donc tout est en unknown, je suis désolé, mais bon voilà.
Oui, tu veux dire que tu aurais eu le guide électronique des programmes pour cette chaîne-là. Le nom du programme, bien évidemment, aurait été inscrit en même temps, sans aucune opération de ta part.
Il y a le son aussi normalement, mais là, il n'est pas branché.
Ce qui explique une fois de plus la nécessité d'avoir un guide des programmes électroniques.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup Jean-Michel. On clôt donc là notre conférence. On vous remercie de votre attention et on est à votre disposition pour vos questions. On regardera également hors antenne, si je puis dire comme ça, si nos amis présents encore avec beaucoup de fidélité à travers le chat. Et vraiment, je les remercie de leur patience parce que je vois qu'il y a toujours autant de monde au début de la conférence qu'à la fin. S'ils ont quelques questions à adresser en plus ou bien des commentaires et des compléments à nous apporter parce qu'on a pu, oublier des choses, eh bien on regardera ça et pour le moment, ben, merci à tous et on arrête là.
Merci.